Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons un texte tiré du média suivant, L'Inconvénient. Au programme, l'Espagne et l'Amérique latine dans leur récit. Bonne écoute.
Todas las manchas la mancha. L'Espagne et l'Amérique latine dans leur récit. Un texte de Juan Gabriel Vázquez, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. La tradition du roman moderne a vu le jour alors qu'un Espagnol voulait se rendre, mais en vain, en Amérique. Cela s'est passé au mois de mai 1590. À 42 ans, le dit Espagnol avait eu le loisir d'être poursuivi pour avoir blessé autrui dans une rixe, de se battre à l'épante et d'y perdre la main gauche à cause d'un arquebusier, d'être fait prisonnier par des corsaires berbères à Alger, d'écrire plusieurs comédies pour les théâtres de Madrid, de se marier et de perdre son père, de publier un livre intitulé « La Galatée » et d'être nommé commissaire à l'approvisionnement avec pour mission de réquisitionner l'huile et le blé dans toute l'Andalousie. Cervantes était devenu las de cet emploi qui lui causait de nombreux soucis. Des accusations de vol jusqu'à l'excommunication pour avoir saisi le blé de certains chanoines d'Écija. Un jour, à Séville, il a donc rédigé un hommage et rapport où il exposait les services qu'il avait rendus à la couronne, son héroïsme et son infortune à Alger, ainsi que les privations dont il avait souffert au cours des dernières années, et ce, afin de solliciter l'un des postes vacants dans les Indes. Deux de ceux-ci, la comptabilité du royaume de Nouvelle-Grenade et la comptabilité des galères de Carthagène des Indes, se trouvaient sur des territoires qui font aujourd'hui partie de mon pays. Cervantes souhaitait, en somme, se rendre en Colombie. Il n'y est pas arrivé. Au verso de son hommage, le Conseil des Indes a inscrit ces mots cruels qui furent sa seule réponse. « Cherchez par ici pour que miséricorde soit faite. » Parfois ce cauchemar me traverse l'esprit. Cervantes a écrit le Quichotte parce qu'il n'a pas obtenu la comptabilité de Nouvelle-Grenade qu'il convoitait. Cela ne surprendra personne que l'un des passe-temps prisés en Colombie, du moins entre écrivains, soit de spéculer sur ce qui serait arrivé si le contraire s'était produit et si miséricorde avait été faite à Cervantes. Non seulement nous serions le pays qui a assassiné Simon Bolivar, selon ce que suggèrent les enquêtes menées par l'archéologue et historien Hugo Chavez, mais nous aurions privé le monde d'une des œuvres fondatrices de notre conscience. Dans « En un lieu des Indes », nouvelle parue en 1970, Pedro Gomez Valderrama imagine la vie de Cervantes comme comptable à Carthagène des Indes. Il traverse l'Atlantique à bord du galion Santiago, tombe amoureux d'une mulâtresse nommée Piedad et écrit en secret. Des liasses entières, des montagnes et des montagnes de papier qu'il n'envoie jamais à l'imprimerie. Après avoir failli mourir d'une insolation, le vieux Cervantes retourne en Espagne, consumé par l'alcool et la sensualité ténébreuse de la mulâtresse, et portant le poids de son échec comme écrivain. Il passe le restant de ses jours à visiter un homme du nom d'Alonso Quijano, lequel lui narre le récit extraordinaire qu'il est en train de terminer. L'aventure outre-mer de Miguel de Cervantes. Il y a dans ce récit spéculatif, fils lointain de celui de Kafka, où l'histoire de Don Quichotte est une invention de Sancho, une image qui me plaît particulièrement. celle des pages qui s'accumulent, année après année, dans le bureau du comptable Miguel de Cervantes. Qu'y avait-il? Qu'aurait-il pu y avoir dans ce manuscrit? Personne ne peut être insensible à cette question. Nous pouvons imaginer que Cervantes n'aurait pas écrit le Quichotte à Carthagène des Indes, mais nous ne pouvons imaginer qu'il aurait renoncé à l'écriture. Qu'y avait-il donc dans ces pages? Des comédies ratées comme celles qu'il a créées à Madrid avant de voyager, ses autobiographies voilées écrites pour la scène et coiffées de titres comme « La vie à Alger » ou « La bataille navale » Des sonnets et encore d'autres sonnets comme ceux qu'il a dédiés à la reine Isabelle et où on peut lire ses vers douteux. « Reine sérénissime, en qui se trouve ce que Dieu put donner à un être humain ?» Les lecteurs imagineront ce qu'ils voudront, mais pour moi la chose est entendue. Les feuillets manuscrits qui dorment dans le bureau du comptable des galères sont, doivent être, l'une des plus brillantes chroniques des Indes jamais écrites au Nouveau Monde, et il est fort dommage que celle-ci soit demeurée inédite. Les chroniques des Indes, comme le savent tous qui connaissent le discours de réception du prix Nobel de Garcia Marquez, pourraient bien être la source véritable de la littérature latino-américaine. Je ne sais qui a été le tout premier à parler d'un nouveau monde, mais l'un des premiers à utiliser cette expression est Pedro Martir de Anglería, dans une lettre écrite à Barcelone en 1493 à l'intention de Juan de Borromeo, où il disait notamment ceci. « Un certain Christophe Colomb de Ligurie est de retour des antipodes occidentaux et vient d'obtenir pour ce voyage 3 navires de mes rois, car ils ont trouvé fabuleuses les choses qu'il leur a dites. On a commencé à raconter le Nouveau Monde à ce moment, avec les choses fabuleuses que disait Colomb, et on continuera ainsi de le raconter. Il naîtra grâce aux mémoires de Bernal Diaz del Castillo, qui écrivait depuis le Guatemala, au distique de Juan de Castellanos, qui écrivait depuis Tunja en Colombie, puis au premier roman non fictionnel rédigé dans notre langue, El Carnero, de Juan Rodríguez Frel, qui écrivait depuis Bogota. Dans un entretien qu'il a accordé à Joaquín Soler Serrano au milieu des années 70, Carlos Barral explique sa théorie par rapport à ce phénomène encore récent et surprenant auquel il a lui-même contribué et qui allait être connu, et est toujours connu, comme le boom latino-américain. Barral explique, en gros, que cette prééminence du roman latino-américain serait due à la rencontre heureuse et accidentelle de deux éléments. Un monde à raconter et une langue pour le faire. Si les écrivains allemands possèdent une langue, la langue de Goethe et de Schiller, ils ne possèdent pas de monde à raconter parce que celui-ci a déjà été raconté. Il a été épuisé. À l'inverse, les écrivains de langue swahili possèdent un monde à raconter, mais ils ne possèdent pas de langue pour le faire, une tradition sur laquelle ils pourraient s'appuyer. L'espagnol, affirme Barral, est une langue littéraire établie depuis des siècles. Elle rencontre maintenant le monde primitif de l'Amérique latine, un monde mythique, originel et sauvage qui n'avait jamais été raconté, avec pour résultat ce que nous observons aujourd'hui. La génération qui a écrit « Cent ans de solitude » et « La maison verte » et avant cela « Le partage des eaux » et « Le royaume de ce monde ». Vous écoutez « Todas las manchas la mancha », l'Espagne et l'Amérique latine dans leur récit, un texte de Juan Gabriel Vázquez, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. J'ai choisi ces titres en pensant à ceux qu'aurait cité Barral pour appuyer son raisonnement. Des romans qui, d'une certaine manière, ont fondé l'Amérique latine pour toute une génération et pour celles qui ont suivi et qui définiront l'espagnol latino-américain parfois d'une manière réductrice. Ceux qui, pour user d'un de ces mots embarrassants, ont établi la véritable identité de la langue latino-américaine. Car il s'agissait d'une identité limitée. Cette image monolithique que les lecteurs du monde entier se sont faite d'un continent qui est tout sauf monolithique, dont l'histoire de discorde et de violence est due précisément au caractère diffus, fragmentaire, multiple et conflictuel de son identité. Cette image, dis-je, a été pendant des décennies celle de l'Amérique latine. Et c'est pourquoi il n'est pas surprenant que d'autres romanciers appartenant à d'autres traditions postcoloniales, au moment de poursuivre par leur fiction la licorne, ou plutôt le basilic, de l'identité, se soient appuyés d'une manière ou d'une autre sur les réussites littéraires de leurs compères latino-américains. Je pense à ce qu'a fait Salman Rushdie avec l'Inde, ou Peter Carey avec l'Australie, ou Patrick Chamoiseau avec la Martinique, ou Ben Okri avec le Nigeria. En un roman ou en plusieurs, ces reconstituteurs de leur identité respective ont contribué, avec plus ou moins de subtilité, à ce que nous avons fini par appeler avec embarras le « réalisme magique ». L'idée voulant que l'Amérique latine soit un continent de merveilles et que la forme épique soit la plus appropriée pour la raconter a prédominé au cours de cette période prodigieuse. Cela m'a toujours étonné que les liens les plus étroits que le boom latino-américain entretient avec notre tradition linguistique remontent aux histoires qui ont surgi de la découverte et, dans bien des cas, pensons à la loyauté que Vargas Llosa et Garcia Marquez ont toujours juré au roman de chevalerie, l'un à Tyran le Blanc, l'autre à Amadis de Gaulle, à des moments antérieurs. Autrement dit, en cherchant les traces d'un dialogue entre les littératures d'Espagne et d'Amérique latine, depuis ce qu'on appelle l'indépendance, et notamment la façon qu'a eu l'Espagne d'écrire sur l'Amérique latine, je m'étonne de constater un silence désertique, une véritable rupture de communication, entre les chroniques des Indes écrites pour les Espagnols et, disons, Tirano Banderas, il semble qu'aucun écrit d'Espagne n'ait exploré avec un réel bonheur le monde nouveau qui surgissait de l'autre côté de l'océan. À une extrémité, on trouve des histoires hallucinées sur des sirènes qui n'étaient pas des sirènes, mais des lamantins et des griffons qui n'étaient pas des griffons, mais des condors. À l'autre extrémité, l'épouvantail vale inclanesque. À une extrémité, il y a le lointain parent des démesures exotiques du réalisme magique et du souffle épique du roman total, cette audace typiquement latino-américaine. À l'autre extrémité, l'ancêtre immédiat du cliché fatigué du dictateur que notre réalité politique continue de donner pour favori. La question que je me pose est la suivante. Qu'y a-t-il entre les deux? Deux vers de Juan de Castellanos disent ceci. Vers l'Occident se dirigent les navires inventeurs de territoires. Or, il semble que personne sur la rive latino-américaine n'ait écouté avec attention et sérieux les leçons lointaines, les inventions, les étranges inventions qui arrivaient depuis le bureau de Cervantes. Durant deux siècles au moins, et notamment durant le premier siècle suivant les indépendances, avec peut-être une ou deux exceptions qui n'invalident pas l'impertinence de mon propos, tout se passe, au bout du compte, comme si Cervantes était allé en Amérique et que le roman moderne n'avait jamais vu le jour ou qu'il avait vu le jour dans d'autres langues. Car, pendant que le 18e siècle anglais avait un Lawrence Sterne qui écrivait Tristram Shandy ou un Henry Fielding qui écrivait Tom Jones, et pendant que, dans leur premier siècle d'indépendance, les États-Unis voyaient Melville écrire Moby Dick, roman incompréhensible sans le Quichotte, et Mark Twain écrire Huckleberry Finn, incompréhensible non seulement sans le Quichotte, mais aussi sans le Lazarillo de Tormes. Ni en Espagne, ni en aucun de ces territoires récemment perdus, il ne s'est trouvé d'œuvre de fiction pour attester, dans notre langue, la présence tutélaire de Cervantes. L'esprit du Quichotte, sa profonde originalité et la grande portée de ses découvertes est demeuré silencieux durant ces années. Là où on pourrait voir une simple affaire d'influence, le fait de quelques lectures plus ou moins bien assimilées, je vois plutôt le symptôme d'une grave pathologie historique dont je n'arrive pas à préciser la nature, mais que nous ne devrions pas pour autant renoncer à examiner. Pour ceux d'entre nous qui croient en la capacité du roman à explorer les terres obscures de notre condition et de notre place dans le monde, pour ceux d'entre nous qui croient que les moments les plus convulsés de l'histoire produisent leur propre antidote sous la forme de fiction en prose, ce n'est pas un fait gratuit que le premier siècle de l'indépendance latino-américaine, avec tout ce qu'il avait de violent, de confus, de lugubre et de tendu, n'ait pas donné naissance à une seule fiction capable de l'explorer, voire de l'illuminer grâce aux outils que Cervantes nous a légués. Cela n'est-il pas digne de notre curiosité? Une société sans roman véritable, une société qui plus est, dont la langue est celle dans laquelle le genre a été inventé, est une société malade. Vers la fin de Terra Nostra, sans doute le plus cervantesque de tous les romans latino-américains, et assurément celui qui présente le commentaire le plus lucide et le plus cruel sur nos relations en tant que peuple et sur leur vice originel, Carlos Fuentes écrit que la moins réalisée, la plus avortée, la plus latente et désirante de toutes les histoires est celle de l'Espagne et de l'Amérique espagnole. Je crois que notre histoire commune, en effet, est incomplète. Et l'histoire véritable, si elle peut advenir, a été remplacée par toutes les formes de malversations et de mensonges grâce auxquelles les pouvoirs ont semé ce qui constitue notre présent. L'Amérique latine s'est spécialisée dans les tentatives violentes de mettre fin à la violence, dans les tyrans voulant mettre fin à la tyrannie, dans les limitations de la liberté au nom de la liberté. Un personnage de Terra Nostra prophétise qu'il n'y aura pas dans l'histoire, mon Seigneur, de nations qui auront autant besoin d'une seconde chance pour être ce que nous n'avons pas été, que celles qui parlent et parleront ta langue. C'est vrai. À un moment donné, le chemin a bifurqué, ou il bifurquait depuis le début, car personne ne peut oublier que l'année de la découverte a été celle aussi où le territoire de la Mancha a commis son péché originel, dont nous ne pourrons jamais nous libérer, même si nous pouvons peut-être l'atténuer. Vous écoutez Todas las Manchas la Mancha, l'Espagne et l'Amérique latine dans leur récit, un texte de Juan Gabriel Vázquez, paru à l'été 2022, dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. C'est encore Terra Nostra qui le dit, avec cette voix précise dont seul le roman est capable. Voyez, mon Seigneur, avec quel concert se manifestent les raisons de Dieu. Vous pouvez, d'un seul coup, soumettre toute dissidence. Les lois contre les morts et les juifs s'étendent aux idolâtres et les lois contre les premiers s'appliquent aux seconds. Que les fils paient pour les crimes de leur père. Car le sang du crucifié n'a-t-il taché à jamais la race de ses bourreaux? Que l'accusateur reste secret, car doit-il rendre raison de ses actes celui qui œuvre au nom de Dieu? Que l'accusateur et l'accusé ne se trouvent jamais confrontés, car peut-on mettre face à face un vulgaire coupable et le Créateur suprême? Que les témoignages ne soient jamais publics. Car peut-on confondre ceux qui vendent leur âme au diable et ceux qui vendent leur âme à Dieu? Que l'on mène ainsi enquête sur chacun jusqu'à ce que chacun ait peur de parler à autrui et d'entendre parler son prochain. Que l'intelligence soit exclusivement réservée aux choses de la foi. Que l'on impose enfin, ici comme là-bas, silence à tous, car par la moindre ouverture, la moindre faille concédée sous prétexte de science ou de poésie, se faufile l'erreur, l'hérésie, le venin judaïque, arabique et idolâtre. Sans doute que la clé du silence qui a suivi le Quichotte se trouve là. Ce silence qui a saisi l'Amérique espagnole dans les années inaugurales de sa vie indépendante, ce silence qui a empêché le roman de réfléchir aux nouvelles choses qui ont commencé à se produire à partir de 1810. Une alliance curieuse de l'empire et de la religion qui a bâillonné les dissidences et annulé l'individualité et dont l'une des méthodes était la guerre sans quartier contre cette quintessence de l'individualité et de la dissidence qu'est le roman. Il y a deux siècles, quand les colonies américaines ont commencé à s'émanciper de l'Espagne, la situation de la littérature en général et du roman en particulier était bien triste. Dans l'Espagne et les Espagnols, Juan Goytisolo cite cette statistique terrible. À la fin du XVIIIe siècle, soit juste une génération avant les indépendances, la population espagnole comptait 10 millions d'habitants, dont 1 400 000 appartenaient à la noblesse improductive et plus de 200 000 au clergé. À cette époque, José Cadalso y Vázquez écrit « L'Espagnol qui écrit des livres aujourd'hui le fait avec une immense prudence et il tremble quand arrive le temps de les imprimer. » Ellipse. De là découle que de nombreux hommes, dont les ouvrages seraient utiles à la patrie, les dissimulent. Il se référait, bien entendu, à la vigilance qu'imposait la Sainte Inquisition à l'intelligence et à la sexualité des Espagnols et aussi des Américains. Dans un article de 1811 intitulé « Sur l'Inquisition », José María Blanco White se rappelle le bûcher qu'il a vu quand il était enfant, puis souligne que celui-ci existait toujours en 1800, et il se met alors à parler de littérature. En vain, irais-je énumérer les interdits qui rendent impossible une bonne éducation en Espagne, à moins qu'ils ne s'affaiblissent et ne se déprécient, car l'expurgent est l'index de tous les excellents livres qui peuplent la République des Lettres. Il imagine ensuite un jeune qui ne confond pas le fantôme de la religion avec la religion véritable, méprise la tyrannie de l'Inquisition et lit ce qu'il ne doit pas lire. Ce jeune doit être aussi continuellement prêt à cacher ses livres dans les maisons de ses amis ou complices, avant les visites surprises d'un commissaire du Saint-Office, pour ne pas qu'il soit saisi. Et Blanco White de se demander y aura-t-il un homme au sang si froid qu'il ne hurlera pas de colère en voyant entrer un ignorant ministre du tribunal qui, d'un ton despotique, ordonne d'ouvrir les étagères, note les livres acquis avec tant d'efforts et d'argent, puis les emporte pour les faire pourrir empilés dans une salle de l'Inquisition avec des milliers d'autres ayant connu le même sort? Et il n'y a pas que ce châtiment. Le nom du coupable reste noté au tribunal. Pour toujours, il sera considéré comme suspect. En plus de l'humiliation de subir une réprimande sévère, le malheureux infortuné doit demeurer dans une appréhension continuelle et la crainte d'avoir poursuivi une des causes secrètes menant à la prison, parfois pour jusqu'à 6 ou 7 années. C'est ce que Blanco White appelle la tyrannie religioso-littéraire de l'Inquisition. Dans l'édition qu'il a préparée de cet article, Juan Goytisolo ajoute cette note éloquente en bas de page. Les totalitarismes du XXe siècle n'ont rien inventé. En Espagne et dans l'Amérique espagnole, la guerre des pouvoirs terrestres contre la littérature a accompli une véritable castration intellectuelle mais aussi morale, dont nous ne commencerons à nous remettre qu'à la fin du 19e siècle et dans plusieurs cas seulement quelques décennies plus tard. Un monde sans roman est un monde figé, dont la vision de lui-même est figée, dont l'identité est figée. Dans le cas des nouveaux peuples d'Amérique désespérés de savoir qui ils étaient et quelle était leur place dans le monde, ce manque a pu avoir des conséquences dramatiques. Et je crois que oui, il y en a eu. Tandis que les États-Unis se libéraient de la couronne anglaise, seul cas comparable à la relation qui existe entre l'Amérique et l'Espagne, et que l'esprit de ce pays, disons son « genius loci », prenait forme dans les fictions de Melville et de Twain que j'ai citées, mais aussi dans celles de Hawthorne ou de Henry James, dans l'Amérique espagnole, le roman en tant qu'outil de création ou d'exploration restait muet, et il est resté durant une bonne partie du XXe siècle. Si, un siècle et demi après l'indépendance, la génération du « boom » a pu inventer l'identité latino-américaine, c'est en somme parce que personne ne l'avait fait auparavant. Je me dis, les romans sont les navires, alors que j'écris les romans inventeurs de territoire. J'ai cité partiellement une phrase de Terra Nostra. Non amputée, voici ce qu'elle dit. Serais-tu en train de contempler la transposition du passé historique dans un futur dépourvu d'histoire? Et d'une manière obsédante, étant donné qui tu es et d'où tu viens, tu le dis que, si l'on est ainsi, ce transfert du passé doit être celui de la moins réalisée, la plus avortée, la plus latente et désirante de toutes les histoires, celle de l'Espagne et de l'Amérique espagnole. C'était « Todas las Manchas la Mancha », l'Espagne et l'Amérique latine dans leur récit. Un texte de Juan Gabriel Vázquez, paru à l'été 2022, dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Nicolas Hartmann à la recherche, à la présentation et au montage.